Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes dans l'Apocalypse. Vous rappelez que l'Apocalypse, ça veut dire révélation, le fait d'enlever le voile sur une connaissance de Dieu. Et Dieu nous donne la grâce, vraiment. Le privilège immense de pouvoir puiser dans les trésors de sa connaissance. Il nous a révélé la fin des temps, la fin de l'histoire de l'humanité. Il nous a révélé ce que sera l'éternité. Et Dieu merci, parce que nous, nous sommes de son côté. Donc il y a plein d'excellentes choses qui vont nous attendre. Et Dieu nous donne beaucoup de détails dans sa parole. C'est pourquoi la fin des temps, c'est quelque chose qu'il faut connaître et bien étudier. Ensuite, ça fixe tes convictions. Vous ne pouvez pas vivre vraiment pleinement ici sur cette terre bien engagée avec Dieu si vous n'avez pas la perspective de l'éternité. Je l'ai vu plein de fois chez beaucoup de chrétiens. Des gens, ils se donnent à Christ, ils sont bouillants pour le Seigneur. Bon, et puis au bout d'un moment, la vie chrétienne devient une espèce de routine. Ils sont de moins en moins motivés. Ils commencent à s'endormir. Et une des raisons, pas la seule, c'est qu'ils n'ont jamais la vision de l'éternité. Quand tu régulièrement, c'est quelque chose qui est en toi, cette vision de l'éternité, tu ne vois pas la vie comme un jour après l'autre. Tu regardes 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, le jour où tu vas quitter cette terre. Et comme tu as les yeux vers le jour où tu quitteras cette terre, tu te dis, j'ai un temps ici. Donc il faut que j'utilise ce capital temps et que je l'exploite pour le royaume de Dieu. Et c'est une excellente motivation. Tu comprends l'éternité, donc tu vas parler de Jésus aux autres. Tu comprends l'éternité, donc tu ne te fais pas avoir par n'importe quelle fausse doctrine. Tu comprends l'éternité, donc tu as la perspective du royaume éternel de Dieu. Et tout ça, ça doit te motiver. Donc nous avions vu chapitre 2 et 3 après que Jésus se révèle dans chapitre 1. Donc le chapitre 2 et 3, c'est la révélation que Jésus donne sur le message des sept églises. Ensuite, nous avions vu chapitre 4, l'église au début du chapitre 4, à partir du chapitre 4, n'est plus sur la terre. Et nous avons vraiment parlé de trois choses importantes, c'est l'enlèvement de l'église, le tribunal de récompense pendant sept ans, et puis nous avons parlé aussi bien sûr des 70 semaines d'années de Daniel. Donc je vous rappelle que l'objectif de Dieu, c'est de venir d'abord restaurer son royaume sur la terre, son règne sur la terre. Ça sera fait pendant le millénium. Et pour que ce soit fait, nous avons vu que Dieu doit récupérer la gestion de sa propriété, la terre. kwigarurira icibare cyayo isi.
Ensuite, Dieu viendra instaurer son royaume sur la terre, c'est-à-dire qu'il recréera la surface de la terre et nous serons dans un monde parfait avec lui. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité.
Niyamara kunagura isi izociza yubake kwisi ubwami bwayo tubane nayo ibihe bitazoshira.
Vous savez, pour l'instant nous goûtons seulement les arts, les prémices là, une avance de la présence de Dieu.
Kugeza uyu munsi ibintu byose tubamwo by'Imana ni nk'inshumbusho cyangwa ni nk'avance Imana yaduhaye.
Mais quand nous serons au ciel déjà nous connaîtrons la plénitude de la présence.
Ariko nitwashika mu ijuru tuzoba mu mwuzure mu byuzuye.
Mais il faudra que nous soyons ressuscités pour être dans notre corps et pour avoir la plénitude de sa présence et de sa connaissance. Mais c'est seulement dans l'éternité où Dieu vraiment, quand il aura instaurer son royaume,
où
tout sera Dieu et Dieu sera tout, où ça sera absolument parfait. On va vivre vraiment des moments inimaginables. Absolument extraordinaire. Et il
n'y
aura rien de négatif. Un monde sans larmes.
Ici, itagira marira,
sans pauvreté,
itagira ubukene,
sans péché,
itagira ibyaha,
sans mort,
itagira murupfu,
rien qui sera affecté par le péché.
Ikintu cyose cyandujwe n'icyaha takiriho.
C'est ce que Dieu nous réserve pour l'éternité.
Ibyo nivyo Imana tubikiye ibihe byose.
C'est extraordinaire.
Ibyo rero biragyosha cyane.
Je vous dis, c'est le jour où déjà nous serons au ciel et nous dirons, Seigneur, j'imaginais pas que c'était si extraordinaire.
Et
quand nous serons dans l'éternité avec lui, après le millénium, comme nous le verrons, là, ça sera fabuleux jusque dans l'éternité. Et je peux vous dire qu'on éclatera régulièrement louange en disant, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Là, tu comprendras vraiment, complètement ce qu'est le salut. Et le salut, c'est une affaire du royaume. Donc, nous avons vu que Dieu va être obligé de faire passer la terre par une grande tribulation. Une tribulation et une grande tribulation. Et nous avons vu que la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a un livre qui va être ouvert, que Jésus va ouvrir, et il va envoyer des jugements sur la terre. Nous avons vu qu'il y a 7 sceaux dans ce livre. Et au 7e sceau, le 7e sceau va être un jugement multiple. Il y aura 7 trompettes qui vont sonner. Où Dieu enverra des jugements encore. Et je vous ai montré, il y a le côté de Dieu, tout le côté de Dieu, jusqu'au chapitre 11 de l'Apocalypse. Puis après, il y a une parenthèse au chapitre 12 et au chapitre
13.
Dieu fait sonner les trompettes. Il y a des jugements qui sont accélérés. Et puis, entre-temps, nous voyons l'avènement de l'Antichrist et tout ça. Je ne vais pas revenir dessus. Et lorsqu'il va y avoir la 7e trompette, alors il va y avoir les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc nous avons vu au chapitre 15 les prémices pour ces 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est là où Dieu va mettre un point final sur ses jugements. Et tout ça, ça va converger vers quoi? L'Antichrist dans cette période-là, il faut vous rappeler la deuxième période de la tribulation. L'Antichrist a tout le pouvoir, il travaille avec le faux prophète. Satan a créé un gouvernement mondial où il persécute à mort les chrétiens. Et nous avons vu que ce va être des temps extrêmement difficiles. Dieu va frapper.
Bon,
à la fin de la tribulation, Dieu va faire mourir tous les inconvertis, tous ceux qui auront accepté la marque de la bête. Après de multiples avertissements, Dieu va dire c'est fini. Et vous savez, je vous ai expliqué la semaine dernière, quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. C'est un trait de caractère de Dieu. Il est très très patient.
Il
est encore patient. Et sa patience n'a pas de limite. Sauf le jour où il dit ça suffit. C'est comme ça qu'est Dieu et c'est son caractère. Et nous aussi on doit être comme ça quelque part. Alors au chapitre 15 il y a cette préparation. Pour les sept coupes de la colère de Dieu. Et au chapitre 16, nous avions commencé les sept coupes de la colère de Dieu qui doivent aboutir à la récupération de la gestion de sa propriété, la terre. Donc nous avions vu la première coupe. Et c'est des ulcères que Dieu va envoyer. Et je vous ai montré que c'est des anges qui vont châtier les hommes. Ensuite, on a vu au verset 3 du chapitre 16 que la mer va devenir entièrement polluée. Puis ensuite au verset 4 jusqu'au verset 7, c'est la troisième coupe. Dieu va polluer toutes les eaux potables. Je vous rappelle qu'il y a 97% de l'eau sur cette terre qui est de l'eau salée et non potable.
Et
il n'y a que 3% d'eau sur cette terre, sur la planète, qui est potable.
Et
c'est ce dont nous les hommes dont on se sert. Et là, ce qui est étonnant, quand on compare avec le chapitre 8, c'est qu'il y a beaucoup de jugements qui se ressemblent. On va en reparler, mais ces jugements étaient sur un tiers de la terre. Par contre, là, pour les sept coupes de la colère de Dieu, c'est mondial. C'est-à-dire, Dieu ne fera échapper personne. Alors maintenant, nous allons voir la quatrième coupe. On va lire le verset 7 et jusqu'au verset 8. Et verset 9, excusez-moi, verset 8 et verset 9, quatrième coupe. Il est dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Verset 9, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Alors ici, on va voir un réchauffement surnaturel de la planète.
Vous
voyez, Dieu montre régulièrement dans ses jugements qu'il est le maître de l'univers. Il y a beaucoup de choses que les blasphémateurs utilisent, que Dieu a mis pourtant dans la terre. L'or et l'argent. Le pétrole.
Et pétrole.
Toutes les richesses naturelles, tous les minerais. Dieu les a mis. Et un bon nombre de gens qui exploitent ça blasphèment contre Dieu. Dieu est très patient. Nous profitons tous, comme disait Jésus dans les évangiles, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Vous vous rappelez de cette parole? Souvent, les inconvertis, même les pires, profitent de choses que Dieu a mis dans la nature sans lui rendre gloire. Bien des siècles auparavant, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Maintenant, ça a quand même diminué dans beaucoup de populations, mais il y a eu beaucoup d'idolâtrie où il y a des gens, par exemple, qui adoraient le soleil.
Il
y a des peuplades qui ont adoré la lune. Il y a des peuplades qui ont adoré l'eau, je ne sais quoi, quel truc. Le feu. Toutes sortes de trucs bizarres. que Dieu avait donné à la disposition de l'homme et où les hommes ont refusé. Alors vous savez, on parle, et encore je vous le rappelle, rien de ce qui est fait aujourd'hui tant que l'Église n'est pas enlevée n'est une œuvre de Dieu. Au niveau des catastrophes. Je vous rappelle, c'est vraiment la différence que vous devez faire ici. Tant qu'on est dans le temps de la grâce, Dieu ne touche à rien pour juger les hommes. Et ça, faites attention, parce que ça, c'était vraiment une croyance qui est ancrée chez les chrétiens. Par contre, dans la tribulation, il envoie ses jugements. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on parle de plus en plus de réchauffement de la planète, qui est une réalité d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ici, dans cette coupe de la colère de Dieu. Rien à voir. Là, vous savez, la Terre s'est réchauffée à peu près d'un degré à un degré et demi en 40 ou 50 ans. Et nous savons que c'est la faute de l'homme, dans le sens où l'homme utilise de l'énergie, il crée beaucoup de chaleur. Et rien que ce petit degré et demi. Aujourd'hui, ça a des effets absolument phénoménaux sur la planète. Beaucoup sur le climat. Ça amène par exemple des ouragans beaucoup plus, sur une fréquence beaucoup plus importante, très fort. Ça amène des changements, ça amène des sécheresses beaucoup plus importantes. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir d'une façon tangible. Au pôle Nord et au pôle Sud, c'est très clair quand ils comparent des photos satellites depuis 10 ans, 15 ans. Il voit bien que tout ce qui reste normalement gelé toute l'année au nord et au sud de la Terre, ça a sérieusement diminué. Au nord du Canada, on est capable maintenant l'été de passer au-dessus. Alors qu'avant, c'était impossible. Il y a des choses qui sont évidentes. Mais ça n'a rien à voir avec un jugement de Dieu. C'est simplement le reflet de la pollution de l'homme. Là, on parle directement d'une intervention divine. Rappelez-vous, c'est un ange. Et je vous rappelle que les anges obéissent à Dieu. Quand ils ont un mandat divin, ils l'exécutent. Ça se voit très bien au niveau du monde invisible dans l'Apocalypse. Les démons utilisent les pouvoirs qu'ils ont reçus quand ils étaient des anges, non déchus. Et ils utilisent leur pouvoir pour désobéir à Dieu et pour faire du mal. Les anges, eux, sont loyaux à Dieu. Et là, l'ange avait ordre de faire quoi? D'intervenir sur le soleil. Il faut savoir que le soleil, on l'a étudié de plus en plus en physique. Et bien, il y a en fait des explosions atomiques régulièrement sur le soleil. Il y a des chaleurs gigantesques qui sont dégagées. Mais ce qui est phénoménal et ce qu'on voit régulièrement, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Dieu a permis cela, mais ça nous donne une chaleur régulière sur notre terre. Et pourtant, il se passe plein de choses sur le soleil au niveau atomique. Beaucoup d'atomes sont transformés.
Parce que
si vous voulez changer le noyau d'un atome, il vous faut une chaleur extrême. C'est comme des explosions atomiques qu'il y a. Ce sont des explosions atomiques qu'il y a sur le soleil. Mais elles sont parfaitement gérées par Dieu qui a prévu ça.
Ariko ukugena Imana yabiteguye bipanze neza.
On a le même éclairage tous les jours de la part du soleil.
Misiyo seturamurikirwa izuba
riduhaye. On n'a pas besoin de changer l'ampoule du soleil hein, pour qu'elle éclaire si un jour elle n'éclairait plus.
Agatara kizuba nikazima ngo duhindure dushemo kandi.
Tout est parfaitement réglé par Dieu.
Byose biguma bipanze neza Imana yabipanze
kuko. Mais là il va y toucher.
Ariko hari umunsi izohindura ivyo
bintu. Il va dire vous allez voir qui est le maître de l'univers.
Uwo munsi vuga iti ngira ndabere kondi we rero.
Et la terre va devenir une fournaise.
Isi icicika
Et les hommes, verset
9,
les hommes vont être brûlés et ces hommes qui sont brûlés par une grande chaleur, ils blasphèment. Là, c'est la fin de la fin. Très peu de gens n'ont pas pris la marque de la bête.
Mais
ce sont vraiment ligués contre Dieu. Contre les enfants de Dieu. Ils les font souffrir. Beaucoup sont mis à mort. Et Dieu frappe ici. Et ils vont souffrir, ces gens-là. Ah, ils vont souffrir pour leurs péchés. Mais ils ne se repentent toujours pas. On avait la même remarque dans l'Apocalypse 9, à la sixième trompette. Revenons à Apocalypse 9, versets 20 et 21. C'est terrible de voir l'endurcissement des cœurs. Parce que vraiment, quand on étudie l'Apocalypse, vous avez vu, au début de la tribulation, Dieu envoie les fléaux et prévient les hommes. Repentez-vous, 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 sinon vous allez périr et ça sera fini pour vous.
Il
se montre là. Dieu se montre. Il montre qui il est.
Il
dit, je vais vous juger. Mais je vous donne des chances de vous repentir. Et on a vu tout le long de la tribulation, constamment, c'est l'appel de Dieu. Appel à la repentance, appel à la repentance. Ne prenez pas la marque de la bête, sinon ça serait irrévocable. Tous ceux qui la prendront, cette marque de la bête, ils seront jugés et ils vont mourir dans des moments atroces. Dieu les avait prévenus.
Vous
voyez, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, c'était la sixième trompette, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, etc. Vous voyez, ne se repentirent point.
Vous voyez, ne se repentirent point.
Dans la sixième trompette, les gens avaient encore les moyens de se repentir. Dans les coupes de la colère de Dieu, c'est fini. Dieu a dit c'est fini. Et là il frappe. Et très rapidement, il va y avoir des centaines de millions d'êtres humains qui vont être tués par Dieu. Dieu va les faire mourir. C'est très clair, la Bible le dit. Après les multiples chances, Dieu va les faire mourir. Et là, les sept coupes de la colère de Dieu, à la fin de la septième coupe, avec la bataille d'Armageddon que nous allons voir, ça sera fini, il n'y aura plus d'inconvertis sur la terre. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol.
Endurcissement.
Revenons maintenant au chapitre 16. Et on va regarder la cinquième coupe. Rappelez-vous, les coupes de la colère de Dieu, c'est le point final. On s'approche vraiment de la fin de la fin. Là. De la fin du monde. La terre est un chaos gigantesque. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été massacrés. Mais beaucoup sont encore là. Ils se cachent. Ils sont traqués comme des bêtes. C'est un désordre total. Et Dieu frappe. Jusqu'à temps que tout cela soit terminé. Le cinquième ange, selon l'ordre divin, selon le mandat divin, versa sa coupe sur le trône de la bête. Ah, la bête, vous rappelez, l'Antichrist. Et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Encore une fois.
Ouagatanu asukugwa vyagwiwe ku ntebe y'ubwami yacaga ikoko. Ubwami bwacu bucura umwiza uburibwe butuma bahekenya indimi zabo kandi uburibwe bwabo n'ibisebe byabo bituma barogota ku mana nyenijuru kandi ntibihana ngo bareke ibikorwa byabo.
Là, Dieu va toucher directement le quartier général de l'Antichrist.
Harerimani hagurutse gutera aho Antikristo akorera.
Rappelez-vous, il est là, il règne comme souverain mondial.
Nibuke Antikristo azobaganje ku isi nk'umwami
w'isi. Les gens sont séduits.
Abantu yabaze.
Ils ont pris la marque.
Abantu bari kwigiko ikimenyetso
cy'igiko. Ils sont liés spirituellement d'une façon irrévocable pour la perdition.
Bafitanye nawo amasezerano adasubigwamo adasubira inyuma.
Il a soif de sang.
Anyotewe kumena maraso.
Il tue. Il exerce un despotisme, c'est-à-dire vraiment un dictatoriat complet. Il tient l'économie complètement. Et là, Dieu va faire. Et ils vont se retrouver dans les ténèbres. Ça nous fait bien sûr penser à quelque chose. Les 10 plaies d'Égypte. Et je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de jugements que nous avons vus en parallèle avec les plaies d'Égypte.
Exode chapitre 10.
Versets 21 à 23. En fait, Dieu, dans cette coupe de sa colère ici, la cinquième, va paralyser le centre mondial, là où tout est géré. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais ça va être la confusion dans le quartier général de l'Antichrist. Est-ce que Dieu ne va pas pirater surnaturellement les ordinateurs et ces trucs-là, parce qu'on sait que les médias et l'informatique et les moyens de communication vont avoir un grand rôle à jouer. Et là, on voit une des plaies. L'Éternel dit à Moïse, étend ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays, l'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23, car on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël.
Uhoraho abarira Mose ati tunga ukuboko kwa mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa umwiza umeze nk'ikintu cokabakabwa. Mose atunga ukuboko mu ijuru umwiza umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa umara gatatu. Ntihagira ubona uwundi canke ngo hagire uhaguruka ngo ave ahari bimara gatatu, ariko mu mazu y'Abisirayeli bose hari habona.
Alors en fait, c'est intéressant parce que quand on étudie les 10 plaies d'Égypte, il y a vraiment des parallèles. Et je pense que Dieu a voulu ça dans sa parole. Pour nous donner une certaine lumière sur comment les choses vont se passer dans cette période-là, à la fin de la tribulation. Ces gens qui travailleront pour l'Antichrist. Il est vrai qu'il y aura toute une manipulation spirituelle, nous l'avons vu. Mais pour qu'elle puisse être effective sur la terre, il faut des exécutants et ce sont les hommes. Rappelez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. L'influence du monde invisible, mais c'est l'homme qui agit avec son corps sur la terre. Ici, on voit très bien qu'il
n'y
a personne qui va se lever pendant 3 jours en Égypte. Donc, en fait, le pays d'Égypte était paralysé. Personne ne pouvait rien faire, se lever, travailler. Parce que personne ne voyait rien. Je
ne
sais pas si vous avez été parfois dans des... Enfin, quand il y a des nuits vraiment très noires. Quand on marche là où il fait très sombre. Il faut faut faire attention parce qu'on peut sérieusement tomber dans un trou. Un jour, j'étais invité comme ça à un repas. C'était près du lac, là, juste à côté ici. Et il y avait des voitures partout. Et j'ai dû garer ma voiture assez loin. Et j'ai commencé à marcher. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé par terre. Parce que j'étais tombé dans un caniveau. Je n'ai même pas vu. Il faisait tellement noir ce soir-là qu'on ne voyait pas à quelques 50 centimètres. Mais là, Dieu nous montre qu'il y aura des ténèbres sur toute la terre. Donc il va y avoir une paralysie. Une paralysie pour un temps du quartier général d'où l'Antichrist régnera. Et là, les hommes ne sont pas contents. Parce qu'il est dit justement qu'ils vont blasphémer. Revenons au texte. Ils blasphémaient en le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ne se repentirent pas de leurs œuvres. En fait, rappelez-vous que l'Antichrist a eu son succès entre guillemets satanique. Par quoi? Parce qu'il apportait des solutions surnaturelles. Et les gens vont le voir comme un dieu. Ils vont adorer le diable au travers de lui. Et à chaque fois qu'il y a un problème, l'Antichrist viendra avec son faux prophète et fera des actes de magie. La Bible nous le montre clairement. Sauf que là, devant ce que les hommes vont subir, l'Antichrist ne pourra rien faire. Parce que le monde entier va être paralysé. Le monde entier sera paralysé à ce moment. Pendant combien de jours, on ne sait pas. Pour l'Égypte, c'était 3 jours. Et rappelez-vous vraiment la tribulation. Il y a vraiment un parallèle avec ces 10 plaies d'Égypte. Mais rappelez-vous que l'Égypte s'était localisée. Là, ça va être mondial. Et c'est ça où est la grande différence. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu Apocalypse 8 et Apocalypse 9, on va voir plusieurs passages, eh bien, on s'aperçoit que même pendant le début de la tribulation, Dieu va envoyer, va frapper un tiers de la terre. Si vraiment vous faites des parallèles entre le chapitre 8 et le chapitre 9, des 6 premières trompettes par rapport aux 5 premières coupes, vous allez trouver pas mal de parallèles sur des jugements. Mais il faut le dire. À chaque fois, on parle dans l'Apocalypse 8 et l'Apocalypse 9. Un tiers de la terre qui est frappée. On va juste lire ces passages-là. Apocalypse 8, versets 7 à 12. Là, ce sont les 6 premières trompettes. Pas toutes, mais une partie. Et ça nous montre les parallèles. Mais dans une moindre mesure. Le premier sonnet de la trompette, il y eut la grêle et un feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et un tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Verset 8, vous voyez, un tiers. Le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Verset 9. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut. Et le tiers des navires périt. Vous voyez bien régulièrement le tiers. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Verset 11. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. On est dans les trompettes là pour l'instant. Le tiers du soleil furent frappés, voyez, le tiers, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour en perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Donc voyez, ici, on voit vraiment des jugements, mais un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. On s'en est dans les trompettes.
Kuva kuri ndwe gushaka kuri 12 turi muri bya bihe by'inzamba, urabona ko baguma bavuga icya gatatu kirononeka icya gatatu, baguma bavuga icya gatatu.
Icya gatatu partout quoi.
Rose.
Alors, on voit le même, quand on continue à lire encore pour les trompettes, chapitre 9, versets 15 à 18, et là encore, on voit le tiers, tiers, le tiers. Donc, on va faire défiler d'Apocalypse 9, 15 à 18. C'est pour ça que je vous dis et que je vous répète, les jugements de Dieu dans toute la tribulation vont commencer comme ça, comme ça, comme ça, et après de plus en plus rapide, 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 jusqu'à temps de frapper jusqu'au bout.
Zigenda buke buke mu ntango uko mubona bagenda barabivuga hakagerigero bigenda binyaruka cyane gushika umunsi byose bihagara.
C'est exactement ce que vous voyez dans le déroulement des jugements.
Nibyo kandi urabona uko bona imanza zigenda ziratera imbere.
Les six premiers sauts.
Et
ça défile. Et quand on commence le septième, là on a six premières trompettes. Et la septième. Et là, les sept coups de la colère de Dieu. On n'a pas les temps exacts où les jugements vont être faits, la longueur de chaque jugement. Mais on voit qu'il y a une accélération. Et que c'est de plus en plus fort. Les trompettes, c'était un tiers. Les coupes, c'est la terre entière. Les quatre anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Verset 16. On est dans les trompettes encore, je vous rappelle. Le nombre des cavaliers d'armée était de 2 myriades, et j'entendis le nombre, on avait vu tous ces passages. Je vis ainsi, et je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, etc., etc. On va lire verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Tu peux lire verset 18.
Go ikigira gatatu cy'abantu cicwa n'ivyo byago uko ari bitatu.
Donc là, on voit à chaque fois tiers, tiers, tiers. Maintenant, quand on est dans les coupes de la colère de Dieu, c'est la terre entière, et tous les hommes furent frappés, et frappés, et frappés. Tous, tous, tous. Alors, on continue dans le chapitre 16. Et là, va arriver dans les deux dernières coupes. Les deux dernières coupes vont marquer les deux derniers jugements finaux de Dieu. Qui vont amener à la bataille d'Armageddon. Qui va se terminer par le fait que Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Et c'est à l'issue de la bataille d'Armageddon où le Seigneur des Seigneurs est le roi des rois. Il va revenir. Voilà. Deuxième fois. Rappelez-vous, il est venu pour la première fois pour son église, revenu, son premier retour. Mais là, il va revenir avec ses saints, vous et moi, glorieusement pour délivrer Israël. Donc en fait, Jésus va venir trois fois. Il est déjà venu une première fois comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il est venu. Il a fait ses œuvres. Il s'est donné à la croix, on l'a mis à mort. Il est ressuscité. Et depuis, la grâce est ouverte. Le royaume est ouvert pour tous ceux qui se repentent. Tous ceux qui veulent se moquer de Jésus, ils peuvent le faire aujourd'hui. Tous ceux qui veulent défier Dieu en disant « Oh Dieu, si tu existes, eh bien, que le feu du ciel descende et me consume. »
ugombye gucokora no kurogota ku mana agashaka avuga ati mana nimbubaho nyerungi kumuriro wawe turabe arabikora.
Nous sommes dans la grâce.
Turi mu gihe cy'ubuntu.
Dieu est patient.
Imana irihangana.
Mais sa patience se termine.
Ariko ubuntu bwayo hazogera
igihe cyo enlever son église.
Kwihangana kwayo guhagarara niyaza gutorisha
ngera. C'est la deuxième fois que Jésus viendra.
Niho ubwa kabiri Yesu azobaje gutorisha
ngera. C'est son premier retour.
Niko kugaruka kwiwe rero kwa mbere.
Le deuxième retour 7 ans plus tard.
Yongera garuke imyaka indwi iheze.
Nous y sommes presque.
Aho rero niho tushitse.
Il y a donc deux coupes de la colère de Dieu qui vont finaliser les jugements de Dieu.
Hari rero ibi kombe bibiri inzavya zibiri z'uburake bw'Imana zirangiza ibihano by'Imana.
La première coupe. Et ce sont deux événements cruciaux, c'est-à-dire vraiment qui vont permettre au Seigneur de récupérer la gestion de la terre.
Inzavya zibiri za nyuma rero iki cyambere tugira turabe nico kije ki ganisha gusozera ibihano by'Imana.
Nous sommes à la fin de la tribulation, tout à la fin.
Turi ku mpera y'igihe cyihamwa, turashikira impera y'igihe cyihamwa.
Et il va y avoir la bataille d'Armageddon.
Hagiye kuzoba ngaha intambara y'Armageddon.
Dont nous allons parler. Et il va y avoir aussi la destruction de ce que l'appelle, de ce que la Bible appelle Babylone la Grande.
Kongere tubone ningene ico bita ngo Babiloni ahambaye ingene nawe nyene azosambu.
Donc ça c'est les deux événements très importants.
Ibirano ivyo bintu bibiri bihambaye.
Un va se passer dans le monde spirituel, c'est la destruction de la Grande Babylone, Babylone la Grande.
Kimwe kizoba mu buryo bw'impwemu ugusambugwa kwa Babiloni gisagara gikomeye.
L'autre va se passer dans le naturel sur la terre.
Ibindi navyo bizoba mu buryo bufatika hano kwisi.
Ça va être la bataille d'Armageddon.
Une intambara ya Armageddon.
Alors, il va y avoir donc la sixième et la septième coupe de la colère de Dieu.
Urumva ugwabya gwa gatandatu n'ugoruraje.
Armageddon, nous allons voir, c'est une immense bataille. En fait, ce sera toutes les armées de la terre.
Armageddon, rero turabana ko ari intambara ikomeye azoba ari ibisirikare
byose. Ils vont venir pour détruire Israël.
Vyo kwisi bizokorana ngo bize gusambura Israël.
Ça sera l'objectif, c'est de vouloir détruire Israël, bien sûr, il n'y arrivera pas.
Intumbero azoba ari gusambura Israël mugabo ntibizoshoboka.
La destruction de Babylone la Grande
ugusambuka kwa Babiloni hahambaye
sera la destruction du quartier général de Satan.
Azobara gusambura ibiro bikuru bya Satani.
Mais c'est deux choses qui sont importantes à bien comprendre dans la fin des temps.
Nico kino dukene gutahura cyane mu kurangiza ibihe ngaha batwereka.
On va donc regarder la sixième coupe, nous allons lire.
Reka turabe rero ugwavya gwa gatandatu.
Du verset 12 au verset 16.
Kuva ku murongo w'12 kubanda gushika ku 16.
Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
Biragyoshye kuraba kubera ko hari bitari biko munashobora kubivuga ko.
Le sixième, donc le sixième ange, vers ça, donc c'est la sixième coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Verset 13, je vis sortir de la bouche du dragon, donc de Satan, et de la bouche de la bête. Évidemment, nous savons c'est l'Antichrist. Et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14, ce sont là des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin, regardez bien ici, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. C'est Jésus qui parle. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, nous allons étudier plusieurs choses, parce que dans cette sixième coupe,
hano turazaza kwiga ibintu byinshi kuri iki gica gatandatu umareka wa gatandatu asutse ugwabya gwe gwa gatandatu.
Il y a pas mal de choses qui vont se produire.
Hariho rero ibintu byinshi tubona bihabera.
D'abord, il va y avoir le quartier général de Satan qui commence à bouger sérieusement.
Ubwa mbere ibiro bikuru bya Satani biriko birakora cyane.
Et on va faire certains commentaires sur ce sujet.
Hama turagira ibyo tuvuze ko bitari bike kuri iki kintu.
Et ça s'agite sérieusement dans le monde satanique.
Kwa Satani bariko barahungabana cyane.
Parce qu'évidemment Satan est extrêmement déstabilisé avec tous les jugements que Dieu envoie.
Ibihano Imana iri kwirarunga iki cyo gihe bizomuhungabanya Satani.
Il a son représentant sur la terre qui est l'Antichrist.
Antichristo kwisi ni hari.
Il a son faux prophète qui continue à séduire les êtres humains qui ont pris la marque.
Umuvugishwa w'ibinyoma abandanya ashira abantu ibimenyetso by'igikoko azimiza abantu.
Et là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De rassembler un maximum d'armées pour en finir avec Israël. Satan a une haine et un dégoût radical pour Israël. Il a une haine terrible. Et là, nous allons quand même faire plusieurs remarques sur plusieurs choses ici, parce que dans ce texte, il y a vraiment des choses à dire. Alors, d'abord, il va y avoir cette préparation. En fait, l'objectif ici, dans la sixième coupe, c'est que les armées entières se préparent pour cette fameuse bataille
d'Armageddon.
Alors, à ce moment-là, Israël sera au bord du gouffre.
C'est-à-dire
au bord de la destruction.
Il
y a plusieurs passages qui nous le montrent.
Mais
Dieu va nous montrer aussi dans sa parole
qu'à
l'issue de cette bataille, Jésus va revenir glorieusement et détruire l'Antichrist. Alors il y a un certain nombre de passages qu'on va être obligé de regarder ensemble, de lire ensemble. On va lire Daniel 12, verset 7. Et rappelez-vous, Daniel prophétise uniquement pour le peuple d'Israël. Il ne prophétise pas pour l'Église, je vous le rappelle. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait la révélation du temps de l'Église. Tout ce que vous lisez dans les prophéties de l'Ancien Testament concerne Israël. Faites extrêmement attention à ça et le temps, évidemment, de la tribulation. Alors, dans Daniel 12, verset 7, il est dit, j'entendis l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire l'ange, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Vous savez ce que ça veut dire, ça, les trois ans et demi. Et regardez bien. Et toutes ces choses finiront, regardez, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est-à-dire que
Bona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'ugoruzi amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru numva arahira ibaho ibihe bitazoshira yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice c'igihe ibyo murazi ico bisigura kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunwenwe ibyo byose bizoba bishize.
Donc il y a plusieurs choses qui vont se produire en même temps que à la fois la préparation et cette bataille d'Armageddon, l'issue de cette bataille
d'Armageddon.
Alors, on va regarder Ésaïe, chapitre 59, versets 19 à 21.
59, 19 à 21.
Et là, il est parlé de cette bataille d'Armageddon. Il est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On utilise souvent ces versets pour être encouragé dans la foi. Un Rédempteur, regardez, viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Verset 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, je les ai mises dans ta bouche, ne les retiens pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Regardons ensuite Zacharie chapitre 12, verset 10 et 11. Alors c'est peut-être différent dans certaines Bibles, hein. à un verset près, mais le texte est là normalement. Zacharie, chapitre 12, versets 10 et 11. Ça, c'est très important. Ça parle aussi de la bataille d'Armageddon. On va lire ensemble. Chapitre 12, donc, versets 10 et verset 11. Il est dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Celui qu'ils ont percé. « Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Verset 11. « En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddon.
Kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba Yerusalemu impwemu y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege bamugware akabonge nk'ugwazwa n'imfura yiwe kuri uwo munsi hazoba umuborogo ukomeye Yerusalemu nka ya maborogo yabaye ihadadirimoni mu kiyaya cy'Imagedoni.
Et juste avant ce verset 10 et verset 11, on aurait peut-être dû commencer par là, c'est le verset 9.
Imbere y'umurongo w'icumi na cumi na rimwe hari umurongo w'icyenda twari guhera.
Il est dit en ce jour-là je m'efforcerai de détruire. En ce jour-là, ça c'est le jour de la bataille d'Armageddon. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem.
Kandi kuri uwo munsi nzokwitwaririka kugeseza amahanga yose yaje gutera Yerusalemu.
Alors, il va y avoir quelque chose de spécial dans un endroit spécial que la Bible nous décrit.
Hari kinoro kidasanzwe kizoba ahantu hadasanzwe Bibiliya iri kwiratubwira.
Alors, ce fameux mot Armageddon.
Il jambo rero hari Armageddon.
Et on va afficher les deux cartes là qu'on avait prévues.
Les quatre kamakarata abiri
sur la localisation d'Armageddon.
Kubijanye naho aha hantu hari Armageddon.
En fait, cet endroit est connu en Israël.
Aha hantu harazwi muri Israël.
En fait, Armageddon veut dire la montagne de Megiddo.
Urumva nokuvuga ngo umusozi w'Armageddon.
Bon, il y a un certain nombre de batailles qui ont eu lieu dans cet endroit dans l'Ancien Testament.
Hari ntambara zimaze kuhabera mu isezerano rya kera aha hantu.
Et c'est un endroit qui est très connu.
N'ahantu rero hazwi cyane.
Et en fait, c'est un endroit qui est environ à 90 km au nord de Jérusalem.
N'ahantu hari nko ku birometero 90 amajaruguru ya Yerusalemu.
Et il y a une grande vallée.
Hari ikiyaya kinini.
Et il y a la vallée de Jizreel là-bas, et c'est ce qu'on appelle la vallée de Jizreel. Et on va voir, il y a une autre photo qui la montre d'ailleurs.
Vous
voyez, c'est un immense endroit plat devant cette montagne de Megiddo.
N'ikiyaya kinini cyane aho hantu mbere w'umusozi wa Megiddon.
Et c'est immense. Et c'est là où la Bible a prophétisé que les armées des nations viendront pour monter contre Jérusalem.
Niho rero Bibiliya ivuga yuko ibisirikare by'isi bizoza kugira ngo bitere Israël.
Les nations du monde.
Ibisirikare amahanga y'isi.
Sous le leadership de l'Antichrist.
Arongowe na Antichristo.
Vont venir contre Jérusalem.
Bazoza baje kugira ngo bageseze Yerusalem.
C'est ce que ces textes nous indiquent. Alors, on a d'autres textes qui nous montrent un peu sur cette bataille. Juste un peu plus loin, parce que la Bible va en parler encore de la bataille d'Armageddon. On va lire l'Apocalypse 19,
verset 17
à 21. Alors voilà, donc tout simplement, quand on parle de la bataille d'Armageddon, c'est la vallée de Megiddon. Dans cette vallée où, immense, où il y aura toutes ces armées qui vont venir. L'objectif étant de marcher sur Jérusalem et de détruire toute la ville. Et au chapitre 19 de l'Apocalypse, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on nous en parle. Il est dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les libres, les esclaves, petits et grands. Verset 19, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges et par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang, ardents de feu et de soufre. On parlera de ça un peu après. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, ici, c'est un texte qui nous parle de cette bataille. Où les armées vont venir. Du monde entier se rassembler pour exterminer Israël. Rayer Israël de la carte. Et c'est là où le Seigneur va venir. Ça, je vous donne un peu le schéma global parce qu'il y a des détails que la Bible nous donne aussi en même temps. Jésus va revenir. Parce que l'issue de la bataille d'Armageddon, comme nous le verrons, c'est Jésus qui va revenir pour défendre sa bien-aimée Israël. On a plusieurs textes. On a déjà ce texte qu'on a lu dans Apocalypse 19. Mais il y a aussi, par exemple, le texte de 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, qui nous en parle. Donc il y a pas mal de textes qu'on peut mettre en parallèle. Chapitre 2, verset 8. Il est dit, alors paraîtra l'impie, donc l'impie nous savons que c'est l'antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça, c'est son deuxième retour. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, nous avons aussi une prophétie de la destruction de l'Antichrist. Il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc 7 ans, je vous rappelle. Plusieurs, c'est les 10 nations qui vont se lier ensemble, etc. Et qui seront le noyau dur de du gouvernement mondial. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On sait qu'il va se trahir Israël. Rappelez-vous de cela. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Nous avons vu le système qu'il va mettre, l'aspect de la marque de la bête, etc., etc., etc. Et regardez bien, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Juste la fin du verset, s'il te plaît. Jusqu'à ce qu'en fait, la ruine, c'est-à-dire que le dévastateur, c'est-à-dire l'antichrist, soit exterminé. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a un monde qui est sans dessus dessous où Dieu le juge de plus en plus. On a l'antichrist qui a tous les pouvoirs. Mais Dieu frappe très fort. Et ce qui se produit, c'est qu'au bout d'un moment, l'antichrist a pour objectif de détruire complètement Israël.
Donc,
il prend toutes ses armées, prêt à exterminer et à détruire complètement Israël. Mais il ne sait pas que Jésus est le Dieu d'Israël. Et Jésus va revenir. À l'issue de cette bataille d'Armageddon, Jésus va écraser toutes ses armées.
Il
va détruire l'antichrist, le faux prophète. Et il va défendre Israël. Il va se révéler à eux. Juste au moment où ils seront au bord de la destruction, la Bible nous dit que c'est là où ils vont le reconnaître, celui qu'ils ont percé en masse. Et c'est là où il va y avoir un immense réveil. C'est Romains 11, versets 25 à 27 qui nous le dit. Romains 11, versets 25 à 27. Et c'est là où vraiment on voit un certain nombre de choses à propos d'Israël et du réveil en Israël qui va se produire juste à la fin de la fin de la fin. Il est dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Rappelez-vous mystère, ce que c'est. Afin que vous ne regardiez point, vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous savons ce que ça veut dire. Nous l'avons étudié. Verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Nous avons vu ce passage dans Ésaïe, si mes souvenirs sont bons. Il détournera Jacob de ses impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché.
Gobene data singomba ko mutamenye libanga mwoye kwita abanyabwenge n'iyuko habaye gukomantaza imitima y'Abisiraeli ariko si bose gushitsa ahe gitigiri gikwiye cy'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero n'ivyaba bityo Abisiraeli bose bazokizwa nkuko handitswe ngo Siyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana.
Donc on sait qu'Israël va se tourner vers le Seigneur.
Turaziroko Israeli izohindukirira umwami.
À un moment particulier, c'est juste à la fin de la tribulation où ils seront complètement au bord de la destruction.
Mugihe kidasanzwe aho bazoba bagire ba sambuke bose maze bahindukirire.
Jésus revient avec ses saints, comme nous le verrons avec nous.
Yesu achaza nabera biwe.
Écrase l'antichrist, le détruit.
Asambure antikristo
physiquement ainsi que le faux prophète.
Amukureho azimangane n'umuvugishwa binyoma bose.
Et détruit toutes ses armées.
Asambure n'ibisirikare byabo.
Et ça va être la fin du monde. La fin des systèmes de ce monde. C'est comme ça que Jésus va mettre un point final. Et nous verrons qu'après il va mettre à mort tous ceux qui sont encore vivants et qui ne connaissent pas, qui sont pécheurs, qui ont pris la marque de la bête. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de faire des parallèles avec évidemment Matthieu 24 et la fin de Matthieu 24. Et puis le début de Matthieu 25. Et là vraiment, je vous le dis et je vous le redis encore, Jésus parle de la tribulation dans Matthieu 24. Et dans Matthieu 25, il parle juste à la fin de la tribulation, à la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer. Donc, que ce soit l'avancement des événements que Jésus dit dans Matthieu 24, ou les paraboles de Matthieu 25, que nous étudierons, eh bien, cela n'a rien à voir avec nous, l'Église. Et je sais que beaucoup de chrétiens et de prédicateurs prennent Matthieu 24 et 25 et nous frappent avec ça.
Mais
Matthieu 24 et 25 ont été écrits, ces deux chapitres. Pour Matthieu 24, montrer ce qui va se passer dans la tribulation. Et dans Matthieu 25, montrer la fin des temps. Pardon, la fin du monde, excusez-moi. La fin du monde. Alors, dans Matthieu 24, c'est clair que Jésus va nous montrer certaines choses qui vont nous rappeler ce qu'on a étudié avec les trompettes et les coupes de la colère de Dieu et les sceaux en général. Alors, on va faire exprès de relire un peu plus haut, verset 21, Matthieu 24. Parce que en fait, vous allez reconnaître un certain nombre d'événements qu'on a étudiés dans l'Apocalypse déjà. Je vous rappelle, étudiez Matthieu 24 et 25 en parallèle avec les déroulements de l'Apocalypse. Car alors, la détresse, verset 21, sera si grande comme qu'il n'y en a pas, point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, verset 21, car il y aura alors une grande tribulation. Je préfère cette traduction-là hein, plutôt que ce qu'ils ont mis là, c'est-à-dire une grande détresse. La détresse sera si grande. Une grande tribulation, c'est une meilleure traduction. Donc, il n'y aura jamais autant une telle tribulation dans ce monde. Ça, c'est la grande tribulation. Ok ? Ensuite, il est dit... Et si ces jours n'étaient pas abrégés, verset 22, vous rappelez, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous rappelez, les chrétiens vont tellement souffrir, les gens vont tellement souffrir quand ils vont se donner à Christ, que si jamais l'Antichrist pouvait vivre et exister beaucoup plus longtemps, il aurait fini par vraiment exterminer tous les chrétiens. Et Dieu épargnera son peuple à ce moment-là. Verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ ici, il est là, ne croyez pas. Verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges, etc. Donc nous avons vu tout cet aspect de séduction avec le faux prophète, entre autres, et puis d'autres, bien évidemment. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, le Christ, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, Jésus parle de son deuxième retour, à la fin de la tribulation. Verset 28, oui. Regardez bien ici. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis juste le verset 28, s'il te plaît.
Waho muvyimba uri hose, niho ibinyakabaka bizokoranira.
Eh bien, là où il est dit, en quelque lieu que soit le cadavre, ou là sera le cadavre c'est l'image d'Israël à la fin de la tribulation.
Là,
s'assembleront les aigles, une meilleure traduction, s'assembleront les vautours.
Ces
oiseaux de proie qui mangent les bêtes mortes. Ici, on parlerait plutôt des corbeaux qui nous dérangent.
En fait,
l'idée ici, c'est que Jésus est en train de prophétiser quoi? Israël qui est au bord du gouffre comme mort. Tout le monde voit Israël foutu. Comme un cadavre. Parce qu'autour d'Israël, il y a tous ces vautours, toutes ces nations, c'est ça que ça veut dire, les armées des nations,
qui
veulent détruire Israël. C'est ça l'image ici.
Et
Jésus va revenir justement pour sauver Israël. La prochaine fois, nous continuerons. Et je vais vous montrer la fin de Matthieu 24. En parallèle à ce que nous sommes en train d'étudier. Et puis, on étudiera au fur et à mesure, en même temps qu'en continuant l'Apocalypse, les paraboles de Matthieu
25.
Que le Seigneur vous bénisse et faites de bons rêves.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.